Francophone vers l'Afrique, tous les soirs à 18h30, temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le monde aujourd'hui, chez Robin Dorsil à Washington. Bienvenue à l'écoute de VOA Afrique. Les grands points de l'actualité, une attaque terroriste fait au moins 141 morts dans le nord-est du Pakistan. République démocratique du Congo, suite au massacre de Beni, l'armée et les casques bleus reprennent leur offensive contre les rebelles ougandais ADF. Processus israélo-palestinien, John Kerry multiplie ses efforts diplomatiques. Et dans notre rubrique dossier, nous vous parlerons d'une nouvelle arme pour les agents de santé dans la lutte contre Ebola.
Les gens vont travailler beaucoup plus à l'aise. Les prestataires vont travailler aussi plus longtemps dans l'unité de traitement d'Ebola.
On écoutera le docteur Willy Chassa de l'ONG JPAIGO. Et nous aurons notre page économique, les sports et la musique. Mais d'abord, le journal. Le siège d'une école d'enfants de militaires au Pakistan par les talibans s'est terminé par la mort d'au moins 141 personnes, des élèves pour la plupart. Selon un porte-parole de l'armée, 6 des assaillants ont été tués par les forces de sécurité. L'école, dans la ville de Peshawar, a été attaquée aujourd'hui par les militants islamistes pakistanais portant des uniformes de l'armée et bardés d'explosifs. Michel Joseph.
Notre confrère Ahmedullah Khan de la VOA est sur place. Il a parlé de parents en larmes arrivant à l'hôpital où les corps de nombreux enfants ont été transportés et aussi des gens venus offrir leur sang à la centaine de blessés qui y sont traités. Le président du Pakistan, Mamnoon Hussein, tout comme le premier ministre Nawaz Sharif, a condamné l'attaque. Et M. Sharif, qui a décrété un deuil national de 3 jours, a souligné que son gouvernement ne se laissera pas intimider par cet acte barbare et il s'est juré de poursuivre les opérations militaires contre les talibans. Ces talibans disent que l'attaque d'aujourd'hui était en représailles à cette offensive dans les régions tribales près de la frontière afghane. Ici aux États-Unis, le président Barack Obama a fait savoir qu'en ciblant des élèves et des enseignants dans cette attaque odieuse, les terroristes ont encore une fois démontré leur dépravation et M. Obama a réaffirmé le soutien des États-Unis au Pakistan dans son combat contre le terrorisme et l'extrémisme.
Près de 200 soldats syriens et djihadistes ont péri en 24 heures lors de la prise de 2 bases militaires par la branche d'Al-Qaïda dans le nord-ouest de la Syrie, a rapporté ce mardi l'Observatoire syrien des droits de l'homme cité par l'AFP, l'ONG qui dispose d'un large réseau de militants et de médecins à travers le pays, rapporte également qu'au moins 120 soldats du régime de Bachar al-Assad ont été faits prisonniers par le front al-Nusra, la branche syrienne d'Al-Qaïda. En Afrique, République démocratique du Congo, l'armée et les casques bleus menaient ce mardi une offensive conjointe contre les rebelles ougandais musulmans des ADF après une vague de massacres attribués à cette milice. L'opération risque d'être longue, a averti récemment le chef de la MONUSCO, Martin Kobler. Le territoire de Beni dans le nord Kivu a été endeuillé par une succession de massacres de civils et en fait plus de 260 morts depuis le début du mois d'octobre. Les autorités congolaises et la MONUSCO accusent les ADF d'être les auteurs de cette tuerie, dont aucune n'a été revendiquée. Par ailleurs, une délégation des représentants de la Conférence internationale pour la région des Grands Lacs et de la Communauté de développement de l'Afrique australe vient de séjourner dans la ville de Beni pour évaluer la situation sécuritaire dans la zone, rapporte Radio Okapi. La délégation a eu des entretiens hier avec les autorités locales et les responsables militaires des FARDC, la mission de l'ONU et la société civile. En Ouganda, des incidents aujourd'hui lors d'une tentative de rapatriement vers la RDC d'ex-rebelles du M23 ont fait plusieurs blessés. Le président du M23, Bertrand Bisimwa, dénonce un rapatriement forcé. Précision, Eddy Isango.
Un premier groupe de 120 ex-combattants devait être acheminé aujourd'hui par avion vers la RDC à partir de l'aéroport d'Entebbe, a indiqué Paddy Ankunda, porte-parole militaire ougandais. Selon lui, plusieurs refusent de rentrer et ont fui les camps des Biinga où ils étaient regroupés. Le président du M23, Bertrand Bisimwa, qui cite l'AFP, soutient de son côté que les ex-rebelles ont refusé d'embarquer dans les camions et que des coups de feu sont partis du côté de l'armée ougandaise. Il y a eu des blessés et même peut-être des morts, a-t-il ajouté. Plus de 1400 combattants du M23 s'étaient réfugiés en Ouganda après la défaite de leur mouvement suite à une offensive conjointe des FARDC et des casques bleus en novembre 2013. Pour les HCR, ces rebelles ne peuvent pas avoir les statuts de réfugiés. Des experts onusiens accusent l'Ouganda et le Rwanda de soutenir les M23, ce que démentent ces deux pays.
À Niamey, l'opposition nigérienne conteste toujours la réélection de l'ex-opposant Amadou Salifou comme président du Parlement. Il a été élu pour remplacer Ama Amadou, parti en France après sa mise en cause dans un trafic de bébés. Le point avec Nicolas Pinault.
Oui, Tidjani Abdoul Kadri, un élu de l'opposition, a affirmé à la presse avoir saisi la Cour constitutionnelle sur la régularité du vote et la reprise de l'élection. Amadou Salifou, ancien opposant désormais rallié au président Mahamadou Issoufou, a été réélu hier président du Parlement du Niger après l'invalidation de sa première élection par la Cour constitutionnelle saisie par l'opposition. Dans un arrêt rendu le 11 décembre, la Cour constitutionnelle a dit ne pas pouvoir se prononcer sur la première élection de M. Salifou, ce qui équivaut dans la pratique nigérienne à une invalidation de fait. La majorité a donc appelé à reprendre l'élection, mais l'opposition minoritaire à l'Assemblée a quitté l'hémicycle avant le vote. L'ancien président du Parlement, Ama Amadou, a quitté le Niger le 27 août après l'autorisation par ses pairs de son audition par la justice pour une affaire de trafic de bébés entre le Nigeria, le Bénin et le Niger. Actuellement en France, un mandat d'arrêt a été émis à son encontre fin septembre. Principal opposant du président Issoufou, M. Amadou a toujours clamé que les poursuites lancées contre lui étaient politiques. Selon lui, le pouvoir cherche à l'écarter avant l'élection présidentielle de 2016. Les autorités ont démenti ces allégations.
Le gouvernement kényan a fait interdire ce mardi 510 organisations non gouvernementales. 15 de ces ONG sont accusées d'avoir financé des groupes terroristes. Les autorités ont également gelé leurs comptes bancaires et révoqué les permis de travail de leurs employés étrangers. Jacques Aristide.
Cette annonce de Nairobi fait suite au débat houleux qui a lieu dans le pays autour d'un nouveau projet de loi controversé en matière de sécurité et qui vise notamment à lutter contre Al-Shabaab, groupe somalien lié à Al-Qaïda qui poursuit ses attaques contre le Kenya. Henry Ochido, le chef adjoint du Conseil de coordination des ONG, a justifié la décision gouvernementale en affirmant que certaines organisations ont été et continuent d'être utilisées pour des activités criminelles, notamment comme circuit de financement du terrorisme au Kenya et dans la Corne de l'Afrique. Mais cette dissolution de ce nombre important d'ONG n'est pas sans provoquer un tollé au Kenya, d'autant que les médias à l'opposition craignent que le régime du président Uhuru Kenyatta utilise la menace Al-Shabaab comme excuse commode pour freiner les libertés démocratiques des citoyens. La plupart des 510 organisations désormais interdites menaient à bien des projets de développement, de santé, de microcrédit ou culturel, ou encore opéraient des orphelinats.
Au Burundi, les 18 partis d'opposition ont unanimement exigé la démission immédiate de la commission électorale indépendante. Selon l'agence France-Presse, ils accusent la CENI de fraude massive dans l'enregistrement des électeurs et menacent de paralyser l'organisation des élections générales de 2015.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans l'est de la Libye, une coalition de milices islamistes a mené ce mardi un raid aérien sur un secteur proche du principal terminal pétrolier du pays. La mission de l'ONU en Libye a condamné la grave escalade militaire et appelé à une fin immédiate des opérations militaires afin de donner une chance au dialogue politique. D'autre part, les combats ont repris aujourd'hui entre les forces gouvernementales et les milices de Fajr Libya à l'ouest de Tripoli, à la frontière tunisienne. Et dimanche, 17 personnes, dont au moins 13 combattants de Fajr Libya, avaient été tuées dans une frappe aérienne des forces pro-gouvernementales, selon une source militaire citée par l'AFP. Attentats terroristes au Yémen, deux voitures piégées ont explosé au sud de la capitale Sanaa, bilan 25 morts, dont au moins 15 étudiants. Les militants d'Al-Qaïda sont pointés du doigt. Rencontre aujourd'hui à Londres entre le secrétaire d'État américain John Kerry et le principal négociateur palestinien Saeb Erekat pour discuter de la crise israélo-palestinienne. Les deux hommes devaient s'entretenir à la veille de la proposition d'une résolution au Conseil de sécurité fixant une date limite pour le retrait d'Israël des territoires palestiniens. M. Kerry avait aussi prévu de rencontrer le patron de la Ligue arabe, Nabil El Arabi. Hier, le chef de la diplomatie américaine avait abordé le dossier avec ses homologues allemands, français et britanniques, ainsi qu'avec le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu. Le président Barack Obama signera la loi adoptée par le Congrès américain autorisant de nouvelles sanctions contre la Russie, a annoncé aujourd'hui la Maison-Blanche. Le président a l'intention de signer cette loi car elle préserve sa flexibilité sur l'opportunité d'imposer ou non de nouvelles sanctions, a déclaré Josh Earnest, porte-parole de la Maison-Blanche. politique américaine, on parle déjà de la présidentielle de 2016 où l'on pourrait assister à un nouveau duel Clinton-Bush, plus d'un an avant le début des primaires. Jeb Bush, frère et fils de deux anciens chefs d'État américains, a annoncé ce mardi son intention d'être candidat du Parti républicain. S'il se présente et qu'il parvient à écarter ses adversaires, qui pourraient être nombreux, l'ancien gouverneur de la Floride pourrait se retrouver face à Hillary Clinton, la favorite des démocrates jusqu'à présent. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur La Voix de l'Amérique. L'actualité économique en Afrique et ailleurs, la Minute Éco, aujourd'hui avec Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Chérubin.
Symbole de la croissance économique ivoirienne, inauguration du troisième pont d'Abidjan.
Construit en un peu plus de deux ans par les équipes de Bouygues, le pont à péage Henri-Conan-Bédié doit fluidifier la circulation de la capitale économique ivoirienne, son ouverture à la circulation et l'aboutissement d'un projet lancé en 1997 et qui au total aura coûté 270 millions d'euros. Ce pont reliera la Riviera et la commune de Marcory en enjambant la lagune Ébrier.
Au Gabon, le gouvernement reconnaît importer du pétrole pour faire face à la grève qui dure depuis deux semaines.
Dans un communiqué, le ministère du pétrole et des hydrocarbures explique avoir pris des mesures urgentes. 7 millions de litres d'essence sans plomb et 15 millions de litres de gazole ont ainsi été livrés depuis dimanche au dépôt d'Owendo qui approvisionne Libreville. L'Organisation nationale des employés du pétrole, qui a lancé une grève générale et illimitée, va durcir le mouvement suite à l'échec des négociations avec le gouvernement.
Et la CEDEAO a officiellement lancé hier à Abuja son tarif extérieur commun.
Et oui, ce tarif entrera en vigueur le 1er janvier 2015. Le TEC, comme on l'appelle, consiste à appliquer les mêmes droits et taxes aux marchandises pénétrant dans l'espace communautaire, indépendamment de leur point d'entrée et de leur destination.
On peut dire aussi que ce tarif commun assure la promotion des investissements et de l'industrialisation, favorise l'exportation des produits transformés, préserve les recettes douanières et protège les industries naissantes et l'agriculture contre toute concurrence déloyale des biens importés.
Il a tout dit.
Nicolas Pinault. Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, c'est aussi les sports. Présentation ce soir, Timothée Donangmaï. Salut copain.
Bonsoir Gabi.
Alors, parle-nous du Mondial des clubs au Maroc. Coup d'envoi de la première demi-finale à 19h30.
Eh oui, et le Real Madrid, grand favori de ce tournoi, va affronter les Mexicains de Cruz Azul.
Et préparation à la CAN 2015, le Mali va donc se préparer au Gabon.
Les Aigles entreront en opération, en préparation à partir du 3 janvier à Bitam avant l'expédition équato-guinéenne. Leur stage sera ponctué de deux matchs amicaux contre l'Afrique du Sud le 9 janvier et contre le Gabon le 12.
Alors, bye bye Titi, c'est le cas de le dire. Thierry Henry annonce sa retraite sportive.
Et oui, Gabi, l'ancien international français qui évoluait aux Red Bulls de New York jusqu'à cette saison, tire donc sa révérence à 37 ans. Les Red Bulls, qui ont été éliminés en demi-finale de la Major League Soccer par le New England Patriots. Thierry Henry, monument du football français, est meilleur buteur.
Je crois que c'est le New England Revolution.
Revolution, oui. New England Revolution, pardon, pour le football soccer. Et donc Thierry Henry, qui est un monument du football français, est meilleur buteur de l'histoire des Bleus, met un terme à sa carrière pour devenir consultant auprès de la chaîne de télévision britannique Sky Sports. Champion du monde en 1998, champion d'Europe en 2000, Henry a été l'un des acteurs principaux de l'âge d'or de l'équipe de France, dont il a porté le maillot à 123 reprises.
Et comme l'a écrit le patron de la FIFA sur son site Twitter, c'est quand même bien que Thierry Henry ait choisi de rester proche du football. Parlons de dopage maintenant pour deux marathoniennes kenyanes, Timothée.
Une catastrophe, Gabi. Viola Kimeto et Joyce Kiplimo ont été suspendues deux ans après avoir été contrôlées positives aux anabolisants. Ces suspensions font suite à la révélation choc en octobre du contrôle positif à des substances interdites de la Kenyane Rita Jeptu, considérée comme la meilleure marathonienne au monde.
Et rapidement, quelques résultats en basket professionnel ici aux États-Unis.
Les Lakers de Los Angeles se sont inclinés à Indiana 110 à 91. Après trois victoires consécutives, les Bulls de Chicago sans Joakim Noah ont perdu à Atlanta 93 à 86. En tête de la conférence Est, Toronto a ajouté une 19e victoire en s'imposant contre Orlando 95 à 82. et San Antonio, ni Manu Ginobili, ni Tim Duncan s'est incliné à Portland 108-95.
Merci Timothée.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Chez Robin Dorcil, en votre compagnie, à partir du studio 13, ici à Washington, pour cette édition du 16 décembre, place au dossier du jour. Forum sur la sécurité en Afrique, avec la participation de quatre chefs d'État du continent, Idriss Fall a joint dans la salle Dame Babou, chargée de la communication de ce forum.
Au moment où je vous parle, il y a cinq chefs d'État qui sont dans la salle. Par exemple, on connaît le président du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, le président de la Mauritanie, Abdelaziz, et le président du Tchad, et l'ancien président de la République fédérale du Nigeria, le président Obasanjo, et le président Macky Sall, bien sûr. Discuter entre eux de la sécurité africaine à la suite des panels qui se sont réunis pendant deux jours, une dizaine.
Maintenant, des discussions, qu'est-ce qui va en sortir?
Je me réfère au débat au niveau des panels et aussi de l'introduction que M. Chartigan Gadja est en train de faire. On sait qu'aujourd'hui, la question de la sécurité de lever une nouvelle forme sous le terrorisme et qu'on sait que l'Afrique peut devenir le ventre mou de la préparation des djihadistes et des autres terroristes à partir du continent pour attaquer le monde entier. Donc cette question de sécurité n'est plus une question du continent africain seulement ou d'un pays ou de l'Occident seulement, c'est un problème global et il faut lui apporter des solutions globales.
Mais l'Afrique de l'Est est particulièrement touchée, le Mali, Boko Haram au Nigeria.
Et depuis la disparition du mur de Berlin, plus un pays a un état faible qui n'est pas à même de contrôler son territoire, ce pays-là devient une cible particulière pour les terroristes du monde entier. Un pays comme le Mali, très très vaste, avec un état qui n'est pas suffisamment de ressources, aussi militaires que financières, et une jeunesse plus ou moins désemparée. Donc c'est le terreau fertile pour le recrutement de cette jeunesse-là et de son utilisation pour des attaques dans le monde entier.
Les états forts, on ne les construit pas en un jour et les armées aussi sont faibles, ce qui explique la présence de la France.
C'est ça qui explique la présence de la France et d'autres États. Mais cette menace-là n'est plus une menace contre l'Afrique, mais c'est une menace contre l'Occident en particulier. Vous comprenez bien ce qui se passe dans l'océan Indien avec des assurances, des bateaux de marchandises extrêmement chers. L'océan est infesté de pirates. Si cela devait se passer sur l'océan Atlantique et la Méditerranée, ce serait une catastrophe pour l'économie occidentale, ce serait une catastrophe pour la sécurité militaire même de l'Occident. N'oublions pas qu'à part le Mexique, le Canada, le Sénégal est le voisin le plus proche des États-Unis d'Amérique. Nous sommes à 6 jours de bateau de Boston à partir de Dakar. Donc ce qui se passe ici ne concerne pas que le Sénégal, ne concerne pas que le continent. C'est pourquoi la France et les autres sont là, parce que c'est leur propre sécurité qui est menacée.
Voilà, c'était Dame Babou, chargée de la communication du Forum sur la sécurité à Dakar.
La Voix de l'Amérique au Sénégal sur Top FM à Dakar et Radio Al-Fayda à Kaola.
Comme annoncé dans le journal, le Pakistan et le monde sont sous le choc après l'attaque de ce matin à Peshawar qui a coûté la vie à 141 personnes, dont 132 enfants. Après l'offensive lancée par l'armée pakistanaise sur les bastions talibans dans le Waziristan Nord, le groupe a donc décidé de s'attaquer frontalement en lançant cette attaque qui a visé de nombreux enfants aux militaires. Pour une analyse, Nicolas Pinault a joint Gilles Boukra, ce spécialiste du Pakistan et chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique Pakistan.
Qu'on s'attaque à l'armée, c'est pas surprenant vu que l'armée mène depuis juin 2014 une opération dans le nord Waziristan qui vise à déloger tous les éléments terroristes, djihadistes résidant dans cette zone des régions tribales pakistanaises. Et effectivement, ce qui peut paraître étonnant, c'est qu'on fasse une attaque aussi impopulaire, évidemment, en s'attaquant à des enfants. C'est un peu une sorte de fuite en avant du mouvement taliban pakistanais. Il n'y a jamais réellement eu de soutien de l'État et de l'armée pakistanais aux talibans pakistanais, j'entends. Effectivement, il y a eu un soutien aux talibans afghans, à travers notamment le fait que la Quetta Shura soit logée au Pakistan ou que le réseau Haqqani des talibans afghans avaient la bienveillance des services secrets pakistanais tant qu'ils s'attaquaient à la présence occidentale en Afghanistan.
Des voix critiques se sont souvent faites entendre ici à Washington pour dénoncer le laxisme des autorités pakistanaises. On l'avait vu notamment concernant la mort d'Oussama Ben Laden. Est-ce toujours le cas ?
De fait que cette opération militaire a été menée par Raïf Sharif à l'instigation, à la demande des Américains, mais aussi des Chinois, montre que il y a une plus grande réceptivité de l'armée pakistanaise aujourd'hui aux requêtes américaines en ce sens. Notamment, ça a été personnifié par la visite du chef des forces armées pakistanaises, Raïf Sharif, aux États-Unis en novembre 2014, une longue visite d'une semaine, au cours de laquelle notamment le chef de l'armée pakistanaise a réitéré l'intention de l'armée pakistanaise de combattre définitivement les mouvements djihadistes qui pouvaient se trouver au Waziristan et au Nord-Waziristan notamment.
Est-ce que cette attaque de Peshawar montre le déclin des talibans pakistanais ou leurs forces ?
Non, il est beaucoup moins fort pour une simple raison, notamment c'est les divisions au sein de ce mouvement taliban. Divisions qui se sont accélérées au cours de l'année écoulée, suite notamment à la mort dans une attaque de drone américaine de leur dirigeant Hakimullah Massoud. À la suite de quoi, c'est en novembre 2013, à la suite de quoi on a vu certains groupes parmi ces talibans pakistanais prendre leur distance. Les Massoud notamment, l'ethnie Massoud en mai 2014 a pris ses distances. Il y a plus récemment les Punjabis, ce qu'on appelle les Punjabis talibans, qui en septembre ont annoncé qu'ils ne s'attaqueraient plus à l'État pakistanais. Donc ce qu'on voit, c'est que ce mouvement taliban qui était né à fin de l'année 2007, depuis un an, est en train de se fissurer et être plutôt en perte de vitesse.
Gilles Boucra, joint à Paris.
Jacques Aristide avec vous. Washington Forum reçoit ce jeudi Kadiatou Diallo, la mère d'Amadou Diallo. Ce jeune homme d'origine ouest-africaine abattu en 1999 par des policiers de New York. 15 ans après, gros plan sur les manifestations qui se succèdent aux États-Unis pour réclamer justice après la mort récente de plusieurs Africains-Américains sous les tirs de policiers. Rendez-vous ce jeudi à 19h TU sur VOA Afrique.
Une nouvelle arme dans la lutte contre l'Ebola. Il s'agit d'une combinaison protective mise au point par une équipe de l'université Johns Hopkins et de JPIGO, une ONG liée à cette université. Cette tenue, dont le prototype qui vient de remporter l'un des prix d'un concours international lancé par l'Agence américaine pour le développement international, est ventilée et peut être ôtée en toute sécurité par les agents de santé qui la portent. Pour plus de précision, Timothée Donangmaï a joint à Baltimore, dans le Maryland, Dr. Willy Chacha de l'ONG JPIGO.
C'est une très grande modification et innovation parce que ce qui existe maintenant, quand on porte ça, c'est très très chaud, même dans les pays du Nord. Et ce que nous avons développé, c'est d'abord réduire les étapes pour enlever, parce que le danger, c'est beaucoup plus quand on sort de l'unité, peut-être avec une contamination, et pour enlever cette combinaison, il y a un grand risque pour se faire contaminer. Donc, nous avons réduit les étapes. Par exemple, ce qui existe maintenant, nous avons la fermeture devant, mais nous avons la fermeture derrière, et ça s'ouvre très, très facilement. Ça, c'est le 1. Le 2 aussi, nous avons inventé donc un moyen pour que ça, qu'il y a une sorte de la climatisation, c'est-à-dire la personne n'a pas beaucoup de chaleur. Et donc, il y a une circulation qui est très, très fraîche, de l'air qui est frais. Troisième chose que nous avons fait, quand vous regardez ce qui se passe, c'est comme si les gens viennent de Mars, c'est-à-dire quand on porte la tenue, on est couvert complètement. Et nous avons modifié de telle sorte que le prestataire qui va faire le traitement, le patient, voit la personne, le visage, et il y a une sorte de communication, c'est plus facile.
Vous avez parlé d'une circulation d'air frais dans la combinaison. Comment ça se passe?
Ah oui, ça c'est que c'est avec une machine qui pousse de l'air parce qu'on porte ça et puis l'air est circulé par cette structure. C'est une machine qui est en train de pousser de l'air pour que ça passe et ça circule très bien.
Quand est-ce qu'on verra cette combinaison sur le marché?
Ah, ça dépend du contrat. Bon, on vient de gagner ça dès que nous avons... avoir les fonds pour ce développement, ça peut-être prendre 5 mois, 6 mois, bon, ça dépend.
Selon vous, quelle différence cela fera sur le terrain, cette combinaison?
c'est que les gens vont travailler beaucoup plus à l'aise. Les prestataires vont travailler aussi plus longtemps dans l'unité de traitement d'Ebola. Et aussi, je crois que avec cette tenue qui n'est pas aussi effrayante comme ce qui existe maintenant, les gens peuvent venir à l'hôpital, ils peuvent reconnaître ceux qui sont en train de leur traiter, c'est leur frère, c'est leur sœur. Et je crois que ça va faire un changement sur la perception de cette maladie qui est extrêmement effrayante.
Le docteur Willy Checha de l'ONG J-PAIGO, joint à Baltimore dans l'état du Maryland.
Lutte contre le virus Ebola. VOA Afrique se mobilise. Rejoignez-nous sur WhatsApp. C'est simple, ouvrez l'application smartphone WhatsApp et envoyez Ebola au numéro suivant 1-202-257-35-83. Je répète, 1-202-257-35-83. Vous recevrez des infos et des conseils de prévention contre le virus. Restez informés, VOA Afrique.
Les États-Unis ont reculé de 10 pas en arrière parce que des policiers tuent encore des personnes non armées et restent impunis. Tels sont les sentiments d'une Guinéenne, Kadiatou Diallo, qui a perdu son fils Amadou il y a 15 ans lorsqu'il a été abattu en bas de son immeuble par 4 policiers de l'unité Street Crime de la police de New York. Les policiers avaient tiré 41 balles sur Amadou Diallo, 23 ans, qui n'était pas armé. C'est pourquoi Kadiatou participe aux manifestations qui se succèdent en ce moment aux États-Unis pour réclamer justice. Écoutons-la dans un entretien avec Jacques Aristide.
Le 4 février 1999, c'était un événement qui avait vraiment surpris tout le monde et qui a soulevé vraiment un grand débat qui continue à persister puisque la relation entre la police et les communautés, surtout les Africains, Américains, les Noirs, c'est vraiment difficile parce que à chaque fois, il y a des victimes qui tombent et nous ne comprenons pas. Depuis lors, je suis impliquée et avec la Fondation Amadou Diallo pour lancer une campagne pour essayer de diminuer ces frustrations et vraiment pour que mon fils, sa mort serve à quelque chose de positif. Et les événements récents ont encore ouvert ma plaie puisque en tant que maman qui a perdu son fils comme ça, et j'ai vraiment été très secouée. Et c'est une campagne que je continue à participer dans tous les États-Unis, surtout maintenant, plus que jamais. Puisque vous avez vu ce qui s'est passé à New York avec Eric Garner, vous avez vu à Ferguson avec Michael Brown, et puis la mort du petit garçon à Ohio, Tammy Rice, et même les événements de Trayvon Martin. Même avec la communauté guinéenne, après Amadou, il y avait encore une autre victime qui s'appelle Mohamed Ba, et le fils de Hawa Ba que j'ai connu en Afrique. Ça, c'est vraiment difficile et nous savons que les communautés ne peuvent pas vivre seules sans l'apport de la police. Donc, c'est quelque chose qu'on doit continuer à travailler dessus.
15 ans après la mort de votre fils, vous diriez que la situation a plutôt régressé quand il est question de la corrélation entre les forces de l'ordre et la communauté africaine-américaine?
Bien sûr, on a reculé de 10 pas, je peux dire, parce que à l'époque, mon fils, vraiment, le cas de mon fils avait été, ça a servi à toute la communauté américaine pour qu'on essaie de diminuer ces bavures policières. Mais là, maintenant, c'est une preuve encore. 15 ans après la mort de mon fils, nous savons que la situation n'a fait que régresser. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, toute couche confondue, les blancs, les noirs, tout le monde participe. Parce qu'à chaque fois qu'on voit les victimes tomber, c'est toujours la même chose. C'est toujours les jeunes noirs qui sont tués par des policiers, la plupart du temps, qui sont blancs. Et là, c'est un problème qui est très, très, très profond. Et nous devons nous tous nous lever pour demander un changement positif.
Sachez que Kadiatou Diallo, jointe à Washington, sera l'invité de Jacques Aristide jeudi dans Washington Forum à
19h TU. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak, a fresh poison each week. We were born.
Take Me to Church, Osier. Sur ces notes, je vous laisse. L'édition d'aujourd'hui a été mise en onde par Joselle Morissin, assistée de Michel Dubinsky à la console technique. Ici, Chérubin Gabi d'Orsil. I was born sick, but I love it.